Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Yeah.
Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Mario Dumont.
Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
Eh bien, le Québec souligne aujourd'hui les 32 ans de l'attentat de Polytechnique. Une commémoration visant à se rappeler donc le décès de ces 14 femmes tombées sous les balles de Marc Lépine. Et c'est d'autant plus significatif hein, cette année parce que le Québec a connu 18 féminicides. Ce matin, il y a des gerbes de roses qui ont été déposées devant la plaque commémorative à la mémoire des victimes. Ce soir, ben, 14 faisceaux lumineux seront allumés à 17h10 en mémoire des victimes. François Legault va assister à cette commémoration-là, tout comme le premier ministre Justin Trudeau, qui a été par le passé vivement critiqué, notamment par Poly se souvient. Là-dessus, Mario, je te fais entendre les commentaires d'Heidi Radjin.
On a fait des gros progrès quelques années après la tuerie à Polytechnique. Le tout ou presque tout a été détruit par le gouvernement Harper. Et malheureusement, maintenant, 6 ans après un gouvernement libéral qui a été élu sur des promesses électorales en lien avec le contrôle des armes, il n'y a vraiment rien de concret qui a changé sur le terrain.
Ouais, je comprends bien, mais j'ai quelques remarques. D'abord là-dessus, les commentaires qui avaient été faits à l'effet que M. Trudeau pourrait plus être vu avec lui puis qu'il pourrait plus aller aux événements, ben, c'était inapproprié. On peut être en désaccord. C'est les commémorations puis le dossier des armes à feu, ça doit être séparé là. Et même si c'est le même groupe, Poly se souvient, qui s'occupe des deux, il faut qu'ils séparent leur rôle d'organiser à chaque année une commémoration. Qui, elle, est à l'honneur des victimes, où les élus viennent participer parce qu'ils sont les représentants de tout le peuple, et où tu peux pas les exclure. Là. Tu peux pas boycotter, interdire la présence d'un élu, quel qu'il soit. Après ça, que le même groupe dise, nous, ben on est aussi un lobby parce qu'on a une préoccupation légitime sur les armes à feu, on n'est pas satisfait du projet de loi, ou on voudrait le faire renforcer, etc. Ça, c'est correct. Là. C'est un autre rôle et qui peuvent tout à fait jouer, là, qui sont tout à fait autorisés à jouer. Mais pas mélanger les deux, dire si en tant que groupe de pression, on n'a pas ce qu'on veut, on n'invite plus, on menace de ne plus inviter tel élu. Ça, j'avais un malaise avec ça. L'autre affaire, je pense, importante quand même, c'est que sur le fond, il n'y a pas beaucoup d'événements. Là. Dans l'histoire du Québec, du Canada, des tragédies, il y en a plusieurs. Si les deux premiers, si 32 ans après, là, pas pour le premier anniversaire ou le 10e anniversaire, là, ça fait 32 ans, ça fait quand même longtemps. C'est pas un chiffron, là, tu sais, c'est juste le 32e. Et les deux premiers ministres tiennent à être là. Ça démontre quand même l'ampleur, l'importance que ça a, l'importance que ça a pris dans notre collectivité énorme.
Ah, ben t'sais. Oui, c'est clair.
Et l'importance qu'on tient à le souligner, à le commémorer, à s'en souvenir. On commence à voir, d'ailleurs, c'est ce que soulignent certaines personnes. On commence quand même à prendre conscience que là, 32 ans, c'est beaucoup de temps. Donc, c'est quasiment pas la moitié, mais pas loin de la population. Les plus jeunes là, qui ne le sait que par les récits, le film, tu comprends? Il y a une partie de plus en plus importante de la population qui ne l'a pas vécu. Et quand on parle du fameux devoir de mémoire, de raconter, de commémorer une fois par année, ben, tu sais, les premières années, t'es plus ou moins... Oui, tu le dis, le devoir de mémoire, mais t'es plus ou moins dedans, parce que dans le fond, la grande majorité des gens qui participent aux commémorations, ben, ils ont vécu l'événement. Mais là, t'as une génération, les gens, à peu près toutes les personnes qui ont 35, 36 ans et moins, même 37, 38 ans et moins, ils étaient soit de très jeunes enfants qui comprenaient pas, ou carrément, ils étaient pas au monde, là. Donc, c'est beaucoup de gens à qui il faut le raconter.
C'est dans ce contexte-là aussi, Mario, parce que, bon, il y a un parallèle à faire, oui, avec les féminicides. Hein, je disais d'entrée de jeu qu'il y en a eu 18 cette année au Québec, mais c'est une année particulièrement violente également à Montréal au niveau des crimes par arme à feu.
Ouais.
Et encore la semaine dernière, jeudi, en début de soirée, il y a un jeune de 20 ans qui s'est fait tuer par balle à Anjou et... dans le cadre là, de cette annonce hier dimanche de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui a présenté le plan de Québec pour lutter contre la criminalité, un plan d'un peu plus de 50 millions, qui mise beaucoup sur la prévention et ces choses-là. On a le témoignage aujourd'hui vraiment là, bouleversant du père du jeune Annie. Il s'appelle Mustapha Ouadi, qui a accordé une entrevue à notre collègue de TVA Nouvelle, Yves Poirier, dans l'espoir un peu que la mort de son fils ne soit pas arrivée pour rien. Donc, son fils est devenu jeudi la victime du 32e meurtre à survenir cette année à Montréal. Ça s'est passé dans Anjou. Et il a donné un peu de perspective en disant ben, son fils n'avait pas de fréquentation douteuse, ne faisait pas partie d'un gang. Au contraire, il n'avait pas d'antécédents judiciaires, avait un job, rêvait un jour d'aller à l'université, souhaitait devenir enseignant. Et vraiment, tout de suite, là, je te fais entendre ses commentaires. L'homme s'appelle Mustapha Ouadi et il sera suivi de ceux de la criminaliste Maria Mourani, qui s'interroge sur « OK, est-ce que la prévention marche? Et si ça marche, ça marche auprès de qui? »
C'est beau d'injecter de l'argent pour... mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Moi, j'ai envie que mon fils sera le dernier de la liste. J'ai pas envie que d'assister. Je ne pourrai pas assister à un autre enterrement d'un jeune, croyez-moi, du fond du cœur. On enterre un jeune de 20 ans, fleur d'âge, le pauvre, il voulait se marier, il voulait se stabiliser, il voulait faire sa vie.
Mais un jeune qui est dans un gang, là, vous auriez beau lui parler des gangs et faire de la prévention, lui, il est là-dedans et puis il sait où il s'en va et puis on pourra pas le convaincre jusqu'à qu'il se retrouve face aux deux éléments, en fait, les trois éléments des gangs, c'est-à-dire la mort, l'hôpital et la prison. Ça, c'est trois moments où on se met à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie.
Ouais, assez brutal le constat de Mme Mourani. Je suis pas sûr qu'elle a tort, par exemple, quand tu dis un jeune qui est membre d'un gang que c'est pas bien, puis tout ça. Lui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai déploré à certains moments. On présente les gangs, nous, comme étant le mal incarné, là, mais quand t'es dedans, là, c'est plein d'argent, plein de succès, des filles, la grosse vie, et la perspective de se faire arrêter, je pense que présentement, depuis quelques années, il y a eu peu d'interventions policières, peu d'intérêt des policiers pour les gangs de rue, pour toutes sortes de raisons. Donc, la perspective de se faire arrêter était pas... La menace de se faire arrêter était pas très forte, là. Les jeunes étaient confiants qu'ils allaient pouvoir faire leurs activités en toute tranquillité, en toute impunité. Alors, c'est peut-être ça qu'il faut qu'ils changent. Si tout ce que t'entends à tous les jours, c'est qu'un tel s'est fait arrêter, la police est débarquée chez l'autre...
Et les peines, Mario? La sévérité des peines?
C'est une autre question importante, la sévérité des peines, effectivement.
Ouais, restons dans le monde policier, parce qu'il y a eu du développement là, à Québec là, relativement aux interventions musclées qui ont fait le tour du web. Aujourd'hui, on a appris qu'un des policiers impliqués est soupçonné de manquement criminel pour son intervention, donc dans deux des cas très médiatisés la semaine dernière. Il s'agirait de l'intervention au district Saint-Joseph, où on a vu un policier violemment projeter un suspect contre le mur, ça c'était le 16 octobre. L'autre, c'était sur Grande Allée, où on a entendu un policier menacer là un individu de le gazer. Après ça, il le pousse violemment contre une autopatrouille. Ce seraient donc les deux incidents.
Dans les deux cas, il y a des projections vraiment... Généralement, la notion... L'arrestation, normalement, tu ne pousses pas la personne. Là. Tu l'amènes vers toi ou tu l'amènes au sol. Le but, c'est de mettre les menottes. Tout ça se fasse le plus calmement possible, etc. C'est rare en intervention policière de pousser quelqu'un qui va revoler contre un objet, parce qu'à partir de ce moment-là, au Saint-Joseph, il s'est blessé. Là, l'individu s'est ouvert le crâne carrément sur le mur. C'est une intervention, disons, étonnante. Là, parce que tu prends pas vraiment le contrôle de l'individu. Tu le projettes fortement, donc là, il s'en va hors d'équilibre, va se cogner sur quoi il va se cogner, il va atterrir comme il peut, peut se cogner à tête n'importe où. Je suis pas étonné, là, dans le fond, qu'il y ait... qu'il y a une transfert de dossier au BEI.
Ouais. Parce que les policiers qu'on fait, toi et moi, en entrevue, souvent, les analystes en intervention policière nous disent une arrestation, c'est pas toujours chic, surtout quand il y a résistance. Dans ce cas-ci, on n'en était pas là du tout, du tout. Alors maintenant, ça se retrouve sur le bureau du BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, et il n'est pas exclu qu'à la lumière de l'enquête du BEI, que le dossier pourrait être transmis au DPCP, au directeur des poursuites criminelles et pénales, qui lui pourrait ou non porter des accusations criminelles, tout dépendant s'il en juge opportun. Mentionnons que le policier, bon, il fait partie des 5 qui ont été suspendus avec solde la semaine dernière. On ne sait pas s'il a été arrêté à l'heure actuelle, à la lumière de ce qu'on apprend aujourd'hui, mais ça fait suite à cette sortie du chef de la police de Québec, Denis Turcotte, qui avait promis d'aller au fond des choses dans cette histoire-là, se disait préoccupé par ce qu'on avait vu dans les vidéos virales, mais en disant qu'elle ne dise toutefois qu'une partie de l'histoire réelle. Mario, je reste sur la scène judiciaire, oui, parce que aujourd'hui s'amorçaient les plaidoiries dans le cadre du procès de la belle-mère de la petite fille de Granby. On sait que les procédures ont été transférées à Trois-Rivières. Alors, l'avocat de la défense aujourd'hui faisait sa plaidoirie. Demain, ce sera au tour de la couronne. Par la suite, le juge Louis Dionne va émettre ses directives finales mercredi. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les délibérations pourraient s'amorcer soit mercredi soir ou jeudi matin, et ce sont les jurés, bien sûr, qui vont trancher sur le sort de la femme de 38 ans qui a plaidé non coupable aux accusations de meurtre et de séquestration de l'enfant pour le drame qui est survenu le 29 avril. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris 29 avril 2019? Maintenant, à quoi ressemblait la plaidoirie de la défense aujourd'hui? Ben d'abord, il a beaucoup insisté, puis je te le cite, là, en disant « Vous avez prêté serment de ne juger que sur la preuve, sans aucun préjugé, la présomption d'innocence existe. » Donc, il a mis la table un peu pour la suite des choses.
Rappelez la base, là. La femme devant vous est présumée innocente jusqu'à ce que vous ayez la preuve hors de tout doute raisonnable du contraire.
Ouais, parce que de son propre aveu, il disait « Personne ne peut rester indifférent à la mort d'un enfant. Surtout que l'histoire a fait le tour du pays. Mais, attention, il ne faut pas présumer plutôt que l'accusé, oui, est coupable pour autant. » Et il a rappelé les 5 questions importantes. Où le ruban adhésif a été apposé sur le corps de la petite fille? Ça a été apposé quand? Ça a été apposé par qui? Pourquoi il a été apposé, entre autres choses, parmi les questions? Parce que, essentiellement, l'accusé a dit avoir enrubanné la petite sur le plancher de sa chambre avec du ruban. Mais elle a dit ne jamais avoir recouvert le nez et la bouche de la victime. Et j'ai l'impression que c'est vraiment là ce qui est au cœur de tout ça. Est-ce que les jurés vont croire cette version-là? La version de la couronne est bien différente là-dessus. Il y a une experte d'ailleurs de la défense qui est venue témoigner pendant le procès en disant que la petite est morte d'hyperthermie et d'asphyxie mécanique. Ça aurait été provoqué par le ruban et non pas par une suffocation. Comme
et là, je crois comprendre que
la couronne.
C'est ça. Et je crois comprendre que dans la défense, on dit si elle est morte de trop de chaleur ou trop coincée au thorax, c'est des choses que médicalement la belle-mère ne pouvait pas connaître, là, que l'accusé ne pouvait pas connaître là, comme risque. De savoir que si tu bloques la bouche et le nez, tu peux plus respirer, ça c'est une évidence qu'elle aurait pu connaître.
Exactement.
Mais les on est, c'est ça, c'est une défense là, très très pointue, très précise, mais pour susciter le doute raisonnable là, par rapport aux faits qui ont été présentés. Ils ont même eu un expert en résistance du ruban gommé qui est venu à la... Ça doit être quand même quelque chose d'être... j'écoutais ça, puis je me disais, demain, ça va être la couronne qui va venir leur dire exactement le contraire, là, qui va défendre sa vision, mais ça doit être quand même tout un procès qu'auront vécu ces personnes-là.
Ouais, je comprends. Un récit très difficile à entendre. Ouais. Un récit très difficile à entendre, Mario. Tu as raison, c'est clair. Bilan COVID du jour. Oui. Plusieurs choses, là, dans les dernières minutes. Convocation à 13h demain. Point de presse sur la vaccination. On a appris également en fin de journée que selon l'INSPQ, il n'y aurait pas de transmission communautaire du variant Omicron pour l'instant au Québec.
Donc, il ne circule pas. Il y a eu un cas isolé.
Un seul cas pour l'instant, effectivement, mais il ne circule pas.
Parce qu'aux États-Unis, on est parti, il n'y en avait pas, il y en avait un, il y en avait dans 3 États, 10 États, 16 États. Puis le matin, c'est 17 États. il est partout, là. C'est ce que tu te rends compte, c'est qu'aux États-Unis, il est partout déjà.
Oui, si bien que le maire de New York l'a annoncé ce matin, une obligation de vaccination pour tous les employés du privé à compter du 27 décembre prochain. Mais chez nous, il faut dire que le taux de vaccination est plus élevé. Les cas demeurent quand même élevés en ce début de semaine. À Mario, aujourd'hui, le bilan de 1189 cas, 2 décès supplémentaires, 7 hospitalisations de plus pour un total de 226, 3 de plus aux soins intensifs pour un total de 62. Et ça nous amène à la question suivante. Qu'est-ce qui va se passer avec notre temps des fêtes? Est-ce qu'on va vivre un temps des fêtes plus tranquille comme l'année passée? Est-ce que les restrictions vont rester au statu quo, c'est-à-dire 10 personnes, comme ce qui est le cas en ce moment, ou on va pouvoir aller à 20, à 25, comme le souhaiterait le premier ministre François Legault? On a senti un optimisme beaucoup plus prudent de la part du ministre de la Santé, Christian Dubé, notamment avec l'arrivée du variant Omicron. Voici Nima Machouf, épidémiologiste.
Donc, si la surveillance est bien faite au niveau des frontières, et même si Omicron est détecté au Québec, il y a une grande surveillance pour pas que ça se répande. Peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir. On ne sait pas encore grand-chose sur Omicron. Mais justement, parce qu'on ne sait pas grand-chose, il faut faire très attention. Ce qui est important, c'est, même si on planifie les fêtes, il faut s'attendre à, au besoin, tout annuler.
Ouais, c'est ce que... Ouf. Ça, c'est... Non, mais du point de vue de l'épidémiologiste, c'est parfaitement logique.
Oui. Ça passerait mal.
Mais du point de vue politique, si c'était le gouvernement, non, tu peux bien rire. Si c'était le gouvernement, tu veux pas... Oui, on veut pas le refaire. Et c'est pour ça que le gouvernement... J'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire demain, mais ça se peut qu'ils retardent un peu cette décision-là, histoire de se donner le portrait le plus complet possible, histoire d'accumuler le plus d'informations possible avant de trancher, là, avant de d'annoncer à la population une décision. Mais moi, personnellement, au-delà du nombre de personnes, je trouve que là, le gouvernement doit travailler, là, c'est outiller les gens. Beaucoup de citoyens se sont mis en tête, et avec raison, ont entendu des experts dire on devrait, pour les fêtes, avoir des tests rapides, on devrait avoir des autotests chez nous, se tester les membres, être certain avant de faire un souper que s'il y a une personne qui tousse un peu, ou même, des fois, juste sans symptômes, être sûr que tout le monde est correct si on invite des gens plus âgés. Et pour l'instant, ces autotests ne sont pas autorisés en vente libre. Le Canada est le seul pays industrialisé où c'est pas autorisé en vente libre. C'est pas dans les pharmacies. Hein. C'est particulier. Et ben là, on est censé en avoir des millions que le gouvernement du Québec a demandé à Ottawa. Et là, si on les a, on est déjà le 6 décembre. Mettons qu'on les a à la fin de la semaine. Là. Mais là, comment on va faire? Mettons qu'on aurait quoi? 10 jours à peine? Pour les distribuer, parce que c'est une chose que dans un gros entrepôt, Ottawa dise « OK, je vous en livre 6 millions au Québec. » Mais comment tu fais pour que ça se rende dans les familles? Est-ce que tu... j'ai entendu certains disaient on pourrait utiliser le réseau des pharmacies, mais dans cette fois, pas pour vendre sur les tablettes, mais comme un réseau de distribution, là, strictement en fournir aux pharmacies, en disant aux citoyens, allez à la pharmacie avec une preuve que, je sais pas, vous avez une famille de 4, puis là, ils vont vous en donner 4, ils vont vous en donner 8, 2 chacun, je sais pas trop, là. Mais comment on ferait pour faire une distribution? Ça, c'est ce qui est...
C'est le gros point d'interrogation. Moi, il y a aussi deux sujets, moi, que j'ai hâte de voir si ça va être abordé demain. De un, la troisième dose pour les travailleurs de la santé. Parce que dans certains cas, Mario, là, ils ont reçu leur deuxième dose en mars, en avril. Ça fait plus que 6 mois. Ils sont en première ligne, en contact direct avec des gens qui présentent des symptômes infectieux. Puis on a vu la semaine passée les recommandations
demain,
du fédéral.
Je pense que ça va être ça.
Ben moi, j'ai l'impression que ça va être ça. Puis demain aussi, est-ce qu'on donnera suite à la recommandation du fédéral, entre autres pour les 50 ans et plus, pour les doses de vaccination? Tu sais, on entendait la semaine dernière dire les autorités québécoises, ça roule tranquille pour les 70 ans et plus. Ben, si ça roule tranquille, ouvrons. Pourquoi ne pas ouvrir pour les 50 ans et plus?
Mais tu sais qu'il y a il est arrivé un petit quelque chose, ça a sorti en fin de semaine avec les gens en CHSLD. Oui. On avait plusieurs milliers de personnes qui n'étaient pas vaccinées dans les CHSLD, mais je suis un de ceux qui s'en étaient inquiétés publiquement. Pourquoi? Et finalement, il y a un petit bout que le gouvernement ne nous avait pas complètement dit. Là. Ils se sont rendus compte que pour les gens qui avaient eu la COVID plus 2 doses, c'était comme pas mal assez. Là. Et quand ils leur donnaient ce qui devenait une espèce de 4e dose, c'est-à-dire le fait d'avoir eu la COVID, il y a une forme d'immunité liée à ça, pas aussi efficace que le vaccin, mais quand même. Et là, les gens faisaient, bon, c'est pas, c'était rien de grave, c'est pas, mais c'est comme de la fièvre et tout ça, ils en faisaient, mais pas mal. Là. Donc, il y avait les symptômes habituels qui te donnent sa petite feuille là, que tu risques d'avoir avec le vaccin. Mais
c'était décuplé, là.
Oui, oui, ils l'avaient solide, là, la fièvre, puis filait pas, puis tout ça. Mm. Et donc, ils ont arrêté, je dis ça pour dire, ils ont cessé pour les personnes qui ont eu la COVID et leurs deux doses. Mais je suis quand même étonné là, qu'ils aient gardé ça un peu secret, qu'ils aient pas révélé ça au public tout de suite, de dire, oups, là, il vient de nous arriver des choses. On a des gens qui on comprend ce qui arrive. On leur en a donné comme trop d'une certaine façon. Je suis étonné qu'on n'ait pas été plus transparent là-dessus.
C'était aujourd'hui la quatrième journée de grève générale illimitée des éducatrices de 400 centres de la petite enfance qui sont affiliés à la CSN. Puis si ça bouge pas au cours des prochains jours, ben les travailleuses de 140 autres CPE vont aller les rejoindre jeudi. Vous comprenez qu'il y a trois syndicats impliqués dans cette négociation-là. Sortie des syndicats, des partis d'opposition, des parents pour demander au premier ministre Legault d'intervenir dans ce conflit de travail-là. Actuellement, c'est la rémunération du personnel responsable de la cuisine, de l'entretien, de l'administration en CPE qui est au cœur des frictions. En fin de semaine, il y a eu publication, entre autres aussi dans plusieurs médias, d'une pleine page de publicité gouvernementale qui vantait des salaires de plus de 30 $ de l'heure. Ça a jeté de l'huile sur le feu, selon certains. Maintenant, il y a toujours ce spectre d'une possibilité de loi spéciale, mais au Conseil du Trésor, on confirme que l'objectif, c'est toujours d'en arriver à une entente, mais que les syndicats doivent quand même cesser, selon ce qu'on... Là, je les cite, là, cesser d'être intransigeant. Ce matin, à LCN, tu as reçu la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Voici ce qu'elle avait à dire.
On négocie en privé, puis moi, je pense qu'une entente est toujours possible et même souhaitée et souhaitable, et on continue là, à faire le travail aux tables de négociation. Effectivement, on informe, parce que quand on est rendu dans le contexte, M. Dumont, d'une grève générale illimitée, où on dit que le gouvernement est de mauvaise foi, n'est pas au rendez-vous pour un rattrapage, je pense que c'était important de faire connaître les offres qui étaient sur la table.
Ouais, sauf que quand on commence à négocier comme ça sur la place publique, de se lancer les offres pour aller pour prouver à l'opinion publique que les choses, c'est qu'on a été assez ouvert, assez généreux. On est d'expérience, c'est souvent qu'on est plus loin d'un règlement. Là. Quand les négociations vont bien, on les garde secrètes, puis on annonce au public le jour où où tout est réglé. par contre. Je pense que pour la CSN, ils sont en grève, leurs demandes sont plus importantes parce qu'eux demandent la parité, là, demandent que le personnel de soutien ait la même augmentation que les éducatrices. Et ça, sincèrement, je pense que c'est pas possible. C'est même pas pour le gouvernement, c'est même pas une option. Il semble que la FIPEC, la filiale à CSQ, a des demandes, les aurait augmenté d'un pour cent ou deux, mais en échange, qu'ils ont enlevé des congés. Là, la ministre dit, moi là, je peux pas négocier dans ce sens-là. Je peux pas augmenter le pourcentage d'augmentation salariale que vous voulez, là. T'sais, il faut qu'on se rejoigne. T'sais, moi, faut que je monte. Vous autres, faut que vous baissiez. Si on veut se rejoindre à mi-chemin, là.
Ben oui, sinon, on là, s'éloigne.
Oui, le syndicat a relevé ses demandes. Mais malgré ça, a dit, on n'est pas si loin, là. C'est pas, ils acceptent une négociation différenciée, puis ils acceptent qu'ils auront pas autant que les éducatrices. Donc, et ils n'ont pas l'air si pressés, parce que la CSQ, la FIPEC, là, ils ont un mandat de grève générale illimité. Ils l'ont eu même avant la CSN. Ils ne l'ont pas mis en application la semaine passée. Finalement, vendredi, n'ayant pas d'entente, ils ont dit « Ouais, ouais, la grève générale illimitée, on va la faire la semaine prochaine. » Mais jeudi, normalement, tu l'aurais fait lundi, là, tu dis ouais. « T'as un mandat de grève générale illimité. » Mais surtout que l'autre syndicat est en grève. Alors moi, ça me donne l'impression que la FIPEC, ils n'ont pas de fonds de grève. Donc, pour compenser le salaire des éducatrices qui restent à la maison, ils me donnent l'impression qu'ils n'ont pas tant le goût que ça d'aller en grève. Et peut-être que mercredi dans la soirée, une entente de dernière minute pourrait survenir pour leur éviter la grève.
En terminant, Mario, deux dossiers quand même d'importance concernant la Chine aujourd'hui. D'abord, on a appris que l'ambassadeur canadien, Dominic Barton, un homme respecté, compétent, qui a joué quand même un rôle là dans l'histoire des deux Michael, allait quitter la Chine à la fin de l'année. Et
lui dit que ses missions, ses sentiments du devoir accompli, la mission accomplie avec la libération des deux Michael. Mm-hmm. Mais selon notre collègue Raymond Filion qui était à Ottawa, les libéraux voyaient pas ça comme ça. Là. Eux, ils le trouvaient très bon, compétent et ils l'auraient gardé pas peu près parce que c'est pas facile de trouver. Tu sais, le rôle d'ambassadeur en Chine, là, ces années-ci, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident. Et surtout que le Canada va devoir aussi prendre une décision importante. Une décision que les États-Unis ont prise, ont annoncé en annonçant un boycott diplomatique des Jeux de Pékin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les États-Unis n'enverront pas de représentants diplomatiques aux Jeux. Tout ça en raison du génocide et des crimes contre l'humanité en cours. C'est ce que nous a annoncé la Maison-Blanche. Il n'y aura pas de représentants du gouvernement. Par contre, les athlètes américains, eux, vont pouvoir quand même participer aux compétitions.
C'est qu'on punit pas les athlètes. On laisse les athlètes participer parce que on se comprend que boycotter complètement les Jeux, là, c'est une génération d'athlètes. En fait, dans certains cas, des athlètes qui ne participeront jamais aux Jeux. Il y a certains sports où tu peux faire une longue carrière de 12-15 ans. Il y a certains sports où la fenêtre est courte. Là, t'es trop jeune à 20 ans, puis t'es trop vieux à 28. Là. Fait que l'année de tes 24 ans,
c'est là que ça se passe.
Et si cette année-là, les Olympiques sont annulés, ben, ou boycotté par ton pays, là, tu perds ta chance de participer. On veut pas faire vivre ça aux athlètes. Mais là, la décision des Américains, entre toi et moi, ça remet la pression. Le dossier de la Chine est comme pas facile, M. Trudeau. Vraiment pas facile. Et là, ça remet la pression sur lui. Et à partir de maintenant, d'abord, on se doute tous que Joe Biden, quand il prend une décision de cette importance-là, il sait qu'il va déplaire à la Chine. Il a fait savoir sa décision à ses alliés en leur disant, ben là, si vous alliez dans le même sens, ça ferait bien mon affaire. Donc, d'après moi, le Canada s'est fait inviter ou s'est fait suggérer là, d'emboîter le pas, de joindre les États-Unis dans leur mouvement de boycott diplomatique. Et en le faisant, ben, là, en étant à la remorque, en laissant les Américains agir en premier, il arrive quoi, Justin Trudeau? Ben, à partir de maintenant, il va se faire poser la question continuellement. Là, à chaque sortie, on va lui dire, ouais, les Olympiques de Pékin, vous faites quoi? Faites-vous comme les Américains? Donc là, il y a la décision des Olympiques. Il y a la décision de Huawei qui traîne depuis 4 ans. On n'a plus d'ambassadeur en Chine. Alors, le dossier de la Chine reste très, 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 très chaud là, sur le bureau du premier ministre du Canada, M. Trudeau. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie, Alexandre.